La vie des associations est aujourd'hui consacrée à l'association Dyspraxie France. Et pour nous en parler, ils sont deux. Ils s'appellent Vincent Marron. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'association ?
Voilà, tout à fait.
Mm-hmm. Et puis il y a Renan Luce qui est le parrain. Et Vincent Lockman qui a amené tout ce beau monde me disait, Renan Luce, il en connaît vraiment un rayon sur la dyspraxie. Alors on aura l'occasion de juger de tout ça. Bonjour Renan.
Bonjour, il y aura un questionnaire et tout.
Merci d'être des nôtres. N'en doutez pas, il y aura forcément un questionnaire.
D'accord, ok.
Sans doute, hein. J'espère que vous avez pris vos antisèches. Oh, Vincent, peut-être que ce serait bien qu'on parle... Qu'est-ce qu'on dit d'abord ? On parle de la dyspraxie, on parle des dyspraxies, parce que je n'ai pas oublié que Dyspraxie France, dyspraxie s'écrit au pluriel.
Tout à fait. Alors, c'est l'association Dyspraxie France 10. Dyspraxie parce que c'est le trouble principal. Donc, on va revenir sur la dyspraxie tout à l'heure. Mm-hmm. France parce que c'est un rayonnement national. Et 10 parce que la dyspraxie fait partie de la famille des 10.
D'accord. On peut parler d'ores et déjà de la famille des 10, peut-être?
Oui, tout à fait. Alors, en plus de la dyspraxie, il y a d'autres troubles 10, notre trouble des apprentissages, tels que la dyslexie, qui est un trouble du langage écrit, qui concerne la lecture à l'orthographe, la dysphasie, qui est un trouble du langage oral, et puis souvent viennent s'associer des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité.
Mmh. Bon, bah déjà, rien qu'avec ce que vous avez dit, vous méritez un 10 sur 10.
Mais bravo.
Mais auparavant, si vous le voulez bien, restons sérieux, c'est à moi que je parle, ça serait bien qu'on parle plus particulièrement de la dyspraxie, donc je disais, ou des dyspraxies. Alors, comment dit-on ?
On peut parler des dyspraxies, parce qu'effectivement, il y a plusieurs dyspraxies, même si on utilise le mot générique de dyspraxie. Pour revenir sur la définition, parce que c'est important, les praxies, ce sont des gestes qui nécessitent un apprentissage. Si on prend l'exemple du bébé qui naît au début, sait rien faire, puis il va apprendre à faire des choses au fur et à mesure, et certains gestes nécessitent un apprentissage.
Donc c'est vrai qu'on croirait que c'est automatique, on est très trompé, hein, parce que très rapidement, on fait ces gestes, même s'ils sont désordonnés, on les fait.
Tout à fait. Et ces gestes qui nécessitent un apprentissage, donc les praxies, après différents essais, au début on échoue, puis après on arrive à les faire, après différents essais, on arrive à les automatiser. Et on fait les choses finalement sans y penser. Dans le cadre d'une dyspraxie, ces gestes ne vont pas être automatisés, on va devoir les faire comme si c'était la première fois.
Mmh. Et par conséquent, il y a un apprentissage auquel il faut accéder. Comment ça fonctionne ? On finit par gommer l'effet de ces dyspraxies ou
alors,
pas ?
On peut progresser dans ces apprentissages, dans ces praxies, mais il y aura toujours des difficultés et l'écart avec les personnes qui ne sont pas dyspraxiques va continuer à exister, voire à s'accentuer.
Alors évidemment, on va reparler des dyspraxies, on est là pour ça, on va reparler de l'association, mais d'abord, nous avons accueilli un certain nombre de demoiselles qui font partie d'une classe, parce que en ce moment, c'est la semaine des médias à l'école, et le lycée Jacques Vaucanson nous a rejoint par le biais d'une classe, de personnes qui sont dédiées au service à la personne, hein, sur le plan professionnel, et Myriam est là qui voudrait vous poser une question, Vincent. Myriam.
Pouvez-vous présenter l'association ?
Tout à fait. Alors, cette association existe depuis la fin de l'année 2011. Elle a été créée par des dizaines de familles, personnes bénévoles, pour la plupart parents d'enfants dyspraxiques, mais pas uniquement. Et nous avons des représentants dans une cinquantaine de départements à l'heure actuelle. Donc, ces bénévoles sont essentiellement des parents d'enfants dyspraxiques, mais il y a aussi des professionnels, comme des orthophonistes, par exemple, mais d'autres également, qui souhaitent s'engager au-delà de leur simple profession. Il y a aussi des grands-parents, puis aussi des personnes dyspraxiques, des jeunes dyspraxiques qui souhaitent s'engager, pas penser qu'à eux-mêmes, mais aussi faire partager leur expérience pour aider les autres. Et ça, c'est très important.
Alors, quels sont les objectifs essentiels de cette association ?
Alors, les principaux objectifs sont la reconnaissance de la dyspraxie au niveau local et au niveau national. Donc au niveau local, ça c'est le rôle des associations locales de DFD et également des délégations départementales. On a deux types de structures, les associations locales donc qui ont un conseil d'administration sur le terrain ou des délégations départementales qui sont directement rattachées au national. Donc ce travail de sensibilisation s'adresse en direction des enseignants, parce que c'est une partie très importante de notre action, mais également une partie conseil aux familles.
Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur les dyspraxies, même l'éducation nationale n'est pas aguerrie à ça, et beaucoup de profs ne sont pas en possibilité d'entrer en contact efficace, j'allais dire, avec les enfants dyspraxiques.
Alors c'est vrai que depuis quelques années, les choses évoluent, notamment grâce à la loi du 11 février 2005, mais sur le terrain, on constate qu'il y a encore beaucoup d'efforts à effectuer, donc pour la sensibilisation des enseignants, parce qu'une grosse partie de ce handicap se révèle à l'école. Et l'enfant passe beaucoup de temps à l'école. Et si les choses sont pas adaptées, il est vraiment là, dans ce cas-là, en situation de handicap.
Ça veut dire que le dépistage est tout de même difficile, parce que avant l'école, il est très difficile de repérer un enfant dyspraxique, parce qu'avant un certain âge, on peut penser que c'est simplement parce que le bébé, l'enfant va avoir un petit retard et c'est tout.
Alors effectivement, c'est surtout à l'école qu'on remarque une dyspraxie. On peut avoir des doutes éventuellement dans le cas d'un enfant qui naît avec beaucoup d'avance, un enfant prématuré, où effectivement on va pouvoir faire un peu plus attention, mais on connaît plein d'enfants prématurés qui ne sont pas dyspraxiques. C'est vrai que c'est un des facteurs de la dyspraxie, mais il y a aussi plein d'autres enfants qui n'ont pas eu de problèmes à la naissance ou juste après, et qui ont aussi une dyspraxie. C'est compliqué parce que c'est un handicap qui ne se voit pas.
L'association Dyspraxie France 10 est avec nous par le biais de Vincent Marron et de Renan Luce, qui en est le parrain, que nous retrouvons après quelques notes de musique. Aujourd'hui, nous sommes avec l'association Dyspraxie France 10, menée tambour battant, comme vous l'avez entendu, par Vincent Marron, mais également Renan Luce, qui en est le parrain, mais un parrain tout à fait actif. Hein. Et justement, c'est à ce parrain que souhaiterait s'adresser Jessica. Jessica qui fait partie du lycée Jacques Vaucanson, que nous avons accueilli avec grand plaisir pour la fin de cette semaine des médias à l'école. Jessica, vous avez une question à poser, à poser à Renan Luce, quelle est-elle?
Pourquoi avez-vous choisi de parrainer cette association ?
Bien devant le micro, Jessica. Il faudra revenir pour l'apprentissage radio. Hein. Alors, Renan Luce.
En tout cas, moi, j'ai bien entendu pour le coup, la question.
Moi aussi, tout va
bien. Eh bien, pourquoi ? Alors, depuis quand ? Alors, ça remonte à 2 ans, je pense.
Mm-hmm. Voilà, enfin,
la première rencontre avec Vincent.
Au sein d'une ancienne association.
Voilà. J'ai rencontré d'abord Vincent lors d'un concert, qui venait avec sa femme, et qui m'a parlé de son action en faveur de la dyspraxie. La première remarque moi que j'ai eue, c'est que je ne connaissais absolument pas, je pense que j'avais jamais entendu le mot, je pense que c'est peut-être la première chose qui m'a intrigué, c'est de pas savoir de quoi il s'agissait, malgré le fait qu'il me disait que ça concernait beaucoup d'enfants, donc voilà, j'ai été touché par ça. Je pense aussi peut-être le fait que dans ma famille, j'ai une sœur qui a fait face à quelques handicaps, en particulier à l'école, et ça a été assez difficile pour elle de suivre un cursus scolaire
ordinaire
et bien entouré en tout cas. Et ça, c'est ce que rencontrent la plupart des enfants dyspraxiques. Alors c'est quelque chose qui m'a touché aussi. Je vois une certaine injustice à condamner, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas à ne pas permettre à des enfants qui subissent quelques troubles de pas avoir une scolarité normale
et qui ont pourtant les mêmes possibilités que les autres. Hein, en tous les cas, mais qui effectivement, pour lesquels c'est plus difficile de faire valoir ces possibilités et ce potentiel.
Disons que ça nécessite un aménagement et qui passe évidemment par, comme disait Vincent, par une sensibilisation de l'enseignement d'une manière générale.
Donc malgré tout, on peut dire que c'est une vraie belle histoire qui vous a fait devenir le parrain de cette association Renan.
Bah, une belle histoire, je sais pas, en tout cas une histoire importante.
Bah, une histoire d'amour, je dirais, parce que voilà, vous êtes un artiste ouvert et vous vous êtes dit que quand même, c'était quand même moche que si vous ne connaissez pas la dyspraxie, les dyspraxies, ça veut dire que plein d'autres personnes ne connaissent pas.
Ah oui, c'est certain, je pense que c'est toujours le cas, oui.
Et c'est toujours le cas, effectivement. Et merci Renan. Et Vincent est là pour témoigner du fait qu'effectivement c'est difficile à faire entendre à tous, et c'est difficile à faire toucher du doigt à toutes les personnes qui sont concernées, notamment aux enseignants. Alors, vos actions nationales, Vincent?
Oui, alors donc j'ai parlé tout à l'heure des actions locales, mais il y a aussi une action nationale, parce que tout ça va ensemble, hein. Pour nous c'est indissociable. Alors une chose importante, c'est que l'on est membre de la Fédération Française des 10, avec lesquels on peut porter des dossiers au niveau national, notamment ces périodes préélectorales, où DFD est particulièrement active. Mmh. Et puis on va travailler sur l'emploi aussi, alors au sein de la FF10. Et puis différentes problématiques aussi qui peuvent se révéler, notamment en fonction des remontées de terrain. Ça, c'est important. Si on est alerté par des problématiques particulières, par nos adhérents, simplement par des familles, à ce moment-là, on met des groupes de travail en place pour réfléchir à la question et essayer de proposer quelque chose de cohérent, de vraiment approfondi pour
répondre
à ces questions.
Parce que c'est ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'effectivement, ça touche les enfants, mais j'allais dire pas uniquement, parce que, comme vous le disiez, la dyspraxie ou les dyspraxies, on ne peut pas les enrayer comme ça. Donc, il y a toujours des difficultés qui nous suivent peu ou prou dans la vie.
Tout à fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est dyspraxique, du verbe naître, et on meurt dyspraxique. C'est un trouble qui est durable. C'est une des spécificités des troubles 10, c'est que c'est un trouble qui est durable, et donc qui peut créer une vraie situation de handicap si on met pas en place des adaptations. Donc on a parlé au niveau de l'école, ça peut être mettre en place l'ordinateur, par exemple, pour un enfant qui a du mal à écrire. Souvent dans la dyspraxie, il y a un problème de dysgraphie. Pour se rendre compte
c'est-à-dire
de cela.
C'est-à-dire pour former les lettres ou pour les assembler.
Voilà, tout à fait. J'ai parlé tout à l'heure du problème de l'automatisation. Quand on écrit, on fait pas attention qu'on écrit un A, un L, etc. Oui. Un enfant dyspraxique, donc très souvent associé à une dysgraphie, lui va dessiner ses lettres. Donc c'est quelque chose qui va beaucoup le fatiguer. Donc la fatigue, c'est vraiment un facteur important.
Quand vous dites qu'il va dessiner les lettres, ça veut dire qu'il va devoir vraiment penser très profondément à ce qu'il fait.
Tout à fait.
Il ne va pas pouvoir faire activer les automatismes qu'on a tous. Moi, je suis aveugle, mais quand j'entends des personnes qui signent, je veux dire, ils font, ça va vite, en trois coups les gros, c'est fait. Or là, quelqu'un qui est dyspraxique, par conséquent, et qui a un problème au niveau de la dysgraphie, il ne peut pas faire ça. Il faut qu'il pense vraiment. Ça veut dire qu'une signature, ça met une minute, voire une minute et demie ou plus pour être faite.
On peut progresser dans l'écriture, mais ce qu'on constate avec ce problème de dysgraphie, par exemple, c'est que toute l'attention que va mettre un élève dyspraxique à écrire, il ne pourra pas l'apporter à écouter l'enseignant. Ah, c'est ce qu'on appelle le problème de la double tâche. Il ne peut pas faire deux choses à la fois, étant donné qu'il n'y a pas d'automatisation.
Et qui dit double tâche, dit double peine, quoi.
Voilà. Et donc, pour ça, il faut mettre en place des outils, il faut mettre en place des accompagnements. Donc, l'outil, ça peut être l'ordinateur. L'accompagnement, ça peut être l'auxiliaire de vie scolaire qui va prendre en note le cours que donne l'enseignant, ce qui va permettre à l'élève d'écouter le cours, de passer toute son attention à l'écoute du cours et non pas essayer de noter, parce que s'il essaie de noter, il va prendre du retard, il va se fatiguer énormément.
Bien sûr.
Il va pas écouter ce que dit l'enseignant.
Pas et au cours suivant, écouter, il sera crevé. Forcément, il sera crevé et en plus, il aura quelques métros de retard.
Voilà, tout à fait. Et ça, c'est vrai, tout au long de la scolarité, c'est un vrai problème.
Ça a l'air simple comme ça, parce qu'on dit aujourd'hui il y a des outils, notamment à l'ordinateur, qui vient en aide. Reste que il faut pouvoir bénéficier de ces aides. Et là encore, c'est pas si facile parce qu'il faut prouver qu'on est dyspraxique. C'est
voilà,
ça en
donc,
gros.
Oui, tout à fait. Alors il existe des choses intéressantes qui ont été mises en place par la loi du 11 février 2005. C'est le PPS, le projet personnalisé de scolarisation, qui va permettre en fait de faire un état des lieux des difficultés de l'élève, mais aussi de ses possibilités. Donc tout ça, ça va être notifié. Et ça va être un outil qui va pouvoir aider les enseignants, aider la famille, et on va savoir sur quoi on peut s'appuyer. Parce qu'en fait, dans le cadre d'une dyspraxie, il faut s'appuyer sur ce qui marche bien.
Si vous le voulez bien, Vincent, on va s'appuyer sur votre connaissance à vous pour continuer à parler de Dyspraxie France 10. On va le faire après quelques notes de musique. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Vincent Marron et de Renan Luce. Vincent Marron étant le président et Renan Luce le parrain de cette association Dyspraxie France 10. Alors, d'abord, moi j'aimerais que une jeune fille pose une question. C'est Rachel, Rachel qui fait partie de ce lycée Jacques Vaucanson que nous avons accueilli pour cette semaine des médias à l'école. Rachel, vous souhaitiez poser une question à Renan Luce.
Alors, quel est votre rôle de parrain?
Voilà. Comment vous concevez ce rôle de parrain? Toujours bien devant le micro, hein. Bon, mais à la fin de...
Elle était bien, franchement. Ouais. Elle avait ses quatre doigts de distance entre la bouche et le micro. Elle a été très consciencieuse.
Vous êtes bien indulgent, monsieur Luce.
Mon rôle de parrain, déjà, c'est d'être à l'heure au rendez-vous. Hein. Je dis ça parce que je suis arrivé atrocement en retard tout à l'heure.
Rien. Ça nous fait plaisir de vous recevoir. Voilà. C'est rare un artiste qui soit en panne d'essence.
Je sais pas pourquoi.
Non, d'essence, non, c'est rien, c'est pas grave.
Panne d'essence. En deux mots, c'est ça.
Oui,
c'est,
en deux mots.
Pardon,
voilà.
Je suis pas encore complètement au courant. Bon, alors mon rôle de parrain, d'abord, je pense que le principal étant d'aider d'une manière ou d'une autre à faire connaître au mieux la dyspraxie. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un trouble qui est encore assez méconnu du grand public. Et évidemment, on en parlait un petit peu, pour faire bouger les politiques, il faut aussi que le grand public soit au courant, parce que c'est évidemment ce qui les intéresse d'abord, c'est de parler de sujets qui touchent le plus grand nombre. Donc mon but étant d'essayer, par ma présence, par le fait que peut-être quelques médias pourraient être intéressés, plus de parler de la dyspraxie parce que je serai présent, voilà, c'est une première démarche qui est importante. L'autre qu'on a déjà pu mettre en place et qu'on va continuer à mettre en place quand je repartirai en tournée, c'est d'accueillir des stands de l'association qui viennent sur place en concert et qui permettent justement de faire connaître au public qui vient me voir c'est la dyspraxie.
Offrir une visibilité aux associations et qui prennent en charge les personnes dyspraxiques.
Et puis également être présent pour différentes manifestations, pour les enfants qui en auraient besoin aussi.
Parrain, c'est pas un titre honorifique, quoi. C'est vraiment, non, on se bouge, quoi.
Non, parrain, je sais pas si c'est le mot qui conviendra le mieux. C'est un soutien et c'est essayer de répondre au maximum présent pour tous les besoins qu'ils ont et selon mes possibilités aussi.
Alors Vincent Marron, on sait les difficultés hein, des dyspraxiques, on en a entendu parler à l'école, plus tard dans l'entreprise aussi, c'est pas si simple, mais ça a des répercussions jusque dans la vie quotidienne, la dyspraxie.
Oui, tout à fait, parce qu'on disait que c'était un problème de coordination, d'automatisation des gestes. Une personne dyspraxique, un enfant dyspraxique aura beaucoup de mal, par exemple, à lacer ses chaussures. C'est le cas de Daniel Radcliffe, donc qui joue Harry Potter au cinéma, qui explique il est dyspraxique, il n'arrive pas à lacer ses chaussures, donc il met des chaussures à scratch. Ça pose des problèmes, par exemple, pour couper sa viande, pour s'habiller à l'endroit, des choses comme ça dans la vie quotidienne qui pourraient paraître anodines, mais qui créent des difficultés pour s'intégrer dans la vie sociale avec les autres. Compliqué d'aller au resto, par exemple.
Eh oui, compliqué d'aller au resto avec des amis ou avec, est-ce que vous pouvez me couper ma viande?
Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est des problèmes très concrets, qui comptent aussi dans la vie d'une personne dyspraxique, qui fait aussi certainement que beaucoup se ressentent un peu seuls, ont pas forcément beaucoup d'amis. Donc ça aussi, c'est une problématique qui remonte.
Oui. Ça veut dire aussi que votre association offre des moments d'écoute, offre des possibilités aux dyspraxiques de dire d'apprendre aussi à dire aux autres, parce que c'est pas simple de dire je ne peux pas couper ma viande, par exemple.
Oui, tout à fait. Alors ce qu'on fait, alors là c'est plus le travail au niveau local que font nos associations ou nos délégations départementales, c'est de créer des moments de rencontre entre familles, donc où les parents peuvent discuter, mais aussi où les enfants peuvent jouer ensemble. Et ça, c'est important. Une autre mission de l'association, à une plus grande échelle là qu'une simple rencontre, c'est d'organiser aussi des conférences, des colloques, un peu partout en France. Un exemple, au mois de septembre, le 22 septembre, DFD Haute-Normandie va organiser toute une journée avec une conférence le matin et des animations sportives et notamment sur un plan d'eau l'après-midi. Donc Renan va être présent toute la journée sur cette opération. Donc ça, c'est une action aussi où on peut parler de la dyspraxie et sensibiliser les pouvoirs publics et les différents intervenants.
L'entreprise, c'est facile aussi à approcher. Je veux dire, quand on est dyspraxique, alors quand on est d'une association comme la vôtre, comment fait-on justement pour faire valoir le potentiel, les possibilités de ces personnes dyspraxiques, ne pas les écarter aussi de la vie professionnelle, parce que c'est lourd aussi.
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est vrai que c'est un vrai problème. Donc on réfléchit au niveau de DFD et de la Fédération française des Dys à comment on peut organiser les choses autour de l'emploi. Une des problématiques qui ressurgit pour les jeunes qui cherchent du travail, c'est de savoir si on met ou pas en avant le handicap.
Ah. Toujours la même question.
D'autres, ouais. Il faut pas. Alors en sachant qu'il existe des reconnaissances de travailleurs handicapés, mais c'est vrai que pour certains, c'est un petit peu compliqué. Ils ont peur de pas trouver du boulot en disant qu'ils ont une dyspraxie. Ce qu'on remarque beaucoup, on a pas mal de témoignages qui vont dans ce sens-là, c'est que les personnes arrivent à réussir l'entretien d'embauche quand même, parce que en général, à l'oral, ils se débrouillent plutôt bien, sauf en cas de dyspraxie orofaciale. Par contre, beaucoup ne passent pas la période d'essai parce qu'ils sont trop lents, trop fatigable, et à ce moment-là, on est dans une société où il faut aller vite, il faut être très performant, et souvent là, ça bloque.
Dyspraxie France 10 est avec nous par les voix conjointes de Vincent Marron et de Renan Luce, le parrain de l'association, même s'il n'aime pas forcément le mot, mais c'est
un vrai parrain.
Cherche un mot plus efficace encore, mais il est bien aussi celui-là, parrain. Parrainer, ça veut bien dire ce que ça veut dire, et vous le faites bien. Et ils sont avec nous, donc nous allons les retrouver après quelques notes de musique. Aujourd'hui, nous parlons avec Renan Luce et Vincent Marron et quelques demoiselles qui sont venues nous voir dans le cadre de la semaine des médias à l'école. Elles représentent le lycée Jacques Vaucanson des Mureaux. Donc, nous parlons de l'association Dyspraxie France 10. Et Oulay, qui fait partie de ce lycée, souhaiterait poser une question à Renan Luce. Oulay, on t'écoute. Bonjour.
Aimez-vous travailler avec cette association et en particulier, pourquoi ?
Ouais. Alors, évidemment, comme on le disait, c'est une rencontre d'abord, celle avec Vincent, qui qui a permis pour moi de découvrir la dyspraxie. Donc voilà, à partir du moment où j'ai été touché par son action et par sa détermination, évidemment que c'est devenu quelque chose d'important pour moi de travailler avec Dyspraxie France 10. Voilà, la raison, j'en ai un petit peu parlé, c'est la raison.
Mais quand on s'appelle Renan Luce, on doit être sacrément sollicité. J'imagine qu'avant Vincent Maron, il y a des personnes qui sont déjà venues vous voir et vous demandant justement de soutenir telle ou telle association. Comment fait-on le tri? Est-ce que c'est parce que justement la dyspraxie vous était inconnue et que c'était handicap? On va en reparler avec Vincent. Je sais pas s'il accepte qu'on dise handicap, mais on en reparlera. Que c'était un handicap, est-ce que déjà vous avez dû faire le tri, sans citer forcément d'association, c'est pas ce que je vous demande, mais vous voyez ce que je veux dire?
Oui, mais c'est aussi une histoire de rencontre, il suffit de rencontrer la
bonne personne
à un moment où voilà, j'étais
on est
disponible
ouvert, pour, on est disponible.
Pour écouter, qu'effectivement j'ai trouvé comme une incohérence le fait qu'on ne connaisse pas assez bien la dyspraxie. Voilà, j'ai pas trop réfléchi à ça, s'est fait comme ça, je crois.
À partir du moment où ça vous a touché, il n'y avait pas de raison de s'opposer à ce parrainage et à ce soutien.
Évidemment.
Vincent, le dépistage, hein, Vincent Maron, le dépistage de la dyspraxie, on en parlait, c'est pas si simple, et puis, se faire prendre en charge après,
tout à fait.
Ça reste compliqué.
Tout à fait. Il faut bien prendre conscience qu'il y a une chaîne, en fait, qui se déroule. Donc d'abord, il y a la question du repérage. Donc le repérage, on en a parlé, hein, c'est surtout à l'école. Le dépistage, c'est de pouvoir alerter et d'envoyer vers les bonnes personnes. On peut pas décréter comme ça qu'une personne est dyspraxique parce qu'on l'a vu mal écrire pendant 5 minutes. Mmh. Ça serait une aberration. Pour vraiment poser un diagnostic, il faut des bilans très précis, notamment des bilans neuropsychologiques. Alors pour faire très simple, qui vont mettre en évidence la différence entre le QI verbal et le QI de performance. Et quand il y a un écart important, on compare avec des écarts types, là on peut suspecter une dyspraxie, puis on va le compléter avec d'autres bilans, notamment des bilans d'ergothérapie. Et à partir de là, on pourra poser un diagnostic. Ce qui est compliqué, c'est que cette chaîne en fait se déroule pas de façon naturelle, pour différentes raisons. Beaucoup de médecins ignorent la dyspraxie. C'est vrai que si les médecins généralistes étaient formés à ces troubles-là, on gagnerait beaucoup de temps. Il manque des ergothérapeutes, des neuropsychologues partout en France. Et puis en plus, certaines professions, comme les ergos, les neuropsychologues, ne sont pas remboursées par la Sécurité sociale. Donc s'il n'y a pas d'établissements médico-sociaux comme des CESAD pour prendre en charge ces enfants dans ce parcours diagnostique, eh bien beaucoup de familles qui n'ont pas les moyens vont déjà pas faire les bilans. Et ensuite, ils vont pas faire la rééducation. Ça, c'est un vrai problème.
Oui. Ça veut dire que c'est avant le bilan. Une fois que le bilan est fait, bon, on peut envisager une prise en charge ou encore, ça dépend.
Oui, on peut faire cette prise en charge, mais encore faut-il avoir les moyens financiers de la payer.
C'est ça. C'est-à-dire, faut d'abord payer le bilan. Une fois qu'on a payé le bilan, on peut être pris en charge si on est reconnu comme dyspraxique.
On paye les rééducations ensuite, quand ça se fait en libéral. Après, si on est pris en charge par un service de soins, donc un CESAD, à ce moment-là, ça coûte rien à la famille. Et puis, un autre biais aussi pour faire des bilans, c'est d'aller dans les centres de référence. Le problème, c'est que les centres de référence ont des listes d'attente très importantes, qui sont menacées aussi, c'est une réalité. Donc, c'est vrai que c'est un vrai parcours du combattant. Et ça, toutes les familles nous font remonter ce témoignage.
Ça veut dire que c'est pas simple.
Non.
Effectivement.
Non, c'est pas simple.
Alors justement, à l'aube d'échéances importantes pour notre beau pays, vous avez alerté les différents politiques? Qu'est-ce qu'ils en disent?
Tout à fait.
Évidemment, ils disent que vous avez raison, hein.
Oui, bien sûr. Ils nous disent que ça va pas trop mal, que ça va même plutôt bien, qu'il y a plein de choses en place.
Oui.
Nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que... Effectivement, il y a des choses qui progressent, hein. Il faut regarder les choses sereinement. En même temps, tous ces parcours du combattant qui remontent nous montrent bien qu'il y a encore plein de choses qui vont pas. Donc, avec la Fédération française des 10, on demande la mise en place d'un plan interministériel. Donc là, c'est vraiment la période où on demande encore plus. Ça fait déjà quelques temps qu'on le demande, mais on le demande encore plus. Parce qu'il faut faire les choses de façon cohérente. Et ça, c'est très important que tous les ministères travaillent ensemble pour faire avancer les problématiques.
C'est-à-dire qu'un jour, les dyspraxies soient des grandes causes nationales, à l'image, par exemple, de l'autisme.
Pourquoi pas? Après, l'important, c'est ce qui se fera sur le terrain pour la dyspraxie et pour les autres troubles.
Qu'on les appelle grandes causes nationales ou autres, l'important, c'est qu'on s'y attache vraiment, qu'on s'y attelle, parce qu'il y a encore du boulot.
Tout à fait. Sachant quand même que, alors, les chiffres sont pas très précis, mais on peut dire, en gros, qu'il y a à peu près 3% de personnes dyspraxiques en France, ce qui est considérable. C'est vraiment un nombre très important, sachant que certaines ont d'autres troubles associés, hein, dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est vraiment un enjeu de santé publique. C'est pas quelque chose de marginal ou d'anecdotique. C'est c'est vraiment très très important.
Et vous parlez de 3%, ça ce sont les personnes qui sont diagnostiquées. Ça veut dire aussi qu'il y a encore des errances de diagnostic, on imagine, puisque vous le disiez, les prises en charge sont difficiles quant au bilan qui doivent être exercés, doivent être faits. Donc forcément, de temps en temps, il y a des personnes qui passent au travers des mailles du filet, j'allais dire.
Il y a beaucoup de personnes qui passent au travers. On pense, on estime, parce qu'on n'a pas de chiffres très précis, mais qu'il y aura environ 3/4 des personnes qui ne seraient pas diagnostiquées. Donc là, il y a un vrai problème, parce qu'une personne qui n'est pas diagnostiquée va vraiment être en situation de handicap à l'école, encore plus importante. Psychologiquement, elle va souffrir aussi, parce que c'est un handicap, du coup, qui n'est pas reconnu. Oui.
Puis c'est un retentissement sur tout le reste, hein.
Oui,
la vie professionnelle, la vie sociale, la vie tout court.
Voilà, difficulté à trouver du travail, donc c'est vrai qu'il y a des conséquences qui peuvent être très importantes.
Dyspraxie France 10 est avec nous par les voix de Renan Luce et de Vincent Marron que vous venez d'entendre, que nous retrouvons après quelques notes de musique. Ce sont les dernières minutes que nous passons en compagnie de Dyspraxie France 10, représentée aujourd'hui par Vincent Marron et par le parrain de l'association Renan Luce. Et puis, il y a Mélanie, qui fait partie du lycée Jacques Vaucanson. Elle est venue nous voir dans le cadre de la fin de cette semaine des médias à l'école et qui souhaiterait poser une question à Vincent Marron. Mélanie, bonjour.
Par quel moyen l'association vit-elle ?
Alors donc, Dyspraxie France 10, c'est une association de loi 1901 qui vit, comme toutes les associations, des adhésions, cotisations de ses membres, des subventions, des dons, et puis des produits qu'elle peut vendre. Voilà, donc c'est vraiment un financement tout à fait classique.
C'est facile, justement, de favoriser le financement d'une telle association. Comment procède-t-on ? Bon, j'imagine il y a différents spectacles, effectivement. J'imagine bien que même Renan Luce a pu mettre la main à la pâte, et elle fera accessoirement. Mais comment procède-t-on ? C'est pas si facile à médiatiser. Comment on fait ?
Non, bah, la médiatisation, bah, voilà, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, par rapport à Renan, on lui a pas demandé d'être le parrain financier de DFD. C'est vraiment, il prête son image pour parler de la dyspraxie. C'est ça qui est important. Après, ce qui compte beaucoup dans une association comme la nôtre, c'est les cotisations des membres. Nous en sommes environ à 300 adhérents, là, à peu près. Donc, bah, je pense qu'on va, voilà, on va augmenter assez rapidement. Parce que sachant, voilà, le nombre de personnes concernées, ça veut dire qu'il y a un énorme potentiel, évidemment. Et puis après, voilà, ça peut être des dons de particuliers, d'entreprises, vraiment.
Et puis les idées sont toujours les bienvenues, évidemment, hein.
Oui, tout à fait.
Ah, bien sûr. L'antenne de Paris, elle fait partie des antennes nouvelles plutôt, ou elle est plutôt installée depuis longtemps?
Alors, depuis la création de l'association, qui est jeune, hein, qui est née en fin d'année, début novembre 2011. Donc, sur Paris, la région parisienne, nous avons des représentants. Donc, je ne vais pas vous donner tous les contacts. Le mieux, c'est d'aller sur le site de l'association.
On donnera les coordonnées, voilà, du site à la fin de l'émission. Ça permet aux uns et aux autres de prendre un crayon à papier,
voilà,
et de bien prendre note au moment.
Voilà, on pourra donner un numéro de téléphone aussi. Donc, sachant bien qu'on veut développer donc toutes ces antennes, hein, partout en France et en l'occurrence dans la région parisienne et Paris, évidemment, parce que c'est vrai que c'est quand même la capitale. Voilà. Donc après, ce qui se fait sur le terrain, c'est ce qu'en font les bénévoles et ce qu'en font les adhérents, ce qu'en font les familles. Donc
ça veut dire qu'il y a
la main à la pâte.
Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a toute latitude aux uns et aux autres de créer des événements qui feront mieux encore connaître DFD.
Tout à fait.
Voilà. Renan Luce, moi j'aimerais qu'on parle. Alors, vous avez cette casquette de parrain aujourd'hui, hein, de l'association DFD, mais pas seulement. Vous êtes artiste, auteur, compositeur, interprète. Deux albums déjà. Hein, le dernier, c'est Le Clan des Miroirs. Puis pendant un moment, vous êtes associé. Je sais pas où ça en est. Vous êtes associé à Alexis HK et à Benoît Doremus.
Hein,
vous
avez
fait quelques spectacles ensemble. Ça veut dire que c'en est terminé de l'entité Renan Luce tout seul ?
Non, pas du tout. C'était une petite récréation qu'on s'est offert tous les trois. On était tous les trois entre deux albums, donc on avait envie de partir sur les routes et de s'amuser, voilà, juste partir avec nos guitares, quelques instruments, et
c'est facile ça. On vit ça vraiment comme des gamins en récréation. On se dit, on va s'offrir un petit peu d'oxygène, pourquoi pas.
Oui, et avec ça, évidemment, bien, hein, sûr.
Et c'est on les égos, on les laisse de côté, c'est pas un souci, on y va.
Ah bah, c'est l'idée. Déjà, on est de trois vrais amis dans la vie, donc
ça peut aider,
ça simplifie les choses.
Ouais, effectivement,
voilà, donc c'était en toute amitié, évidemment, que les égos, on les met de côté. On est là juste pour sans pression, pour le plaisir.
On peut envisager engagés, qui des interconnexions plus tard, c'est-à-dire, je sais pas, Benoît Dorémus écrivant pour Renan Luce, Alexis HK écrivant pour Benoît Dorémus, et voilà, et puis que
mais
ça tourne.
Pourquoi pas, on est déjà plus ou moins toujours en train de, si ce n'est de travailler ensemble, de se faire écouter ce qu'on fait, ce qu'on se conseiller. On a toujours eu une approche de dialogue, en tout cas, tous les trois, pour parler de notre travail.
On a hâte d'entendre vos prochaines créations, parce que les deux premiers albums étaient des plus réussis. Les voisines, c'était mutin. Moi, j'ai vu sur Internet que les voisines, ça avait été inspiré par le film d'Hitchcock, Fenêtre sur cour. Vous confirmez?
Oui, ça fait partie effectivement des inspirations.
C'est plus léger quand même.
C'est surtout que ça en donnait le clip. On s'est largement inspiré de l'imagerie de Fenêtre sur cour, effectivement.
En tous les cas, il y a de belles imaginations. Il y avait de belles imaginations. Il y en a eu dans Repenti, les voisines. Moi, j'adore la lettre, évidemment. Enfin, tout ce qu'on connaît. Et le clan des Miro. Alors moi, j'aime bien l'oiseau lire, notamment. Je trouve que c'est une chanson qui mutine à souhait.
Hein. Ça rappelle des souvenirs.
Ben, j'ai pas eu de ce souvenir-là, mais effectivement, bon. J'ai presque eu envie d'en avoir. le prochain album, il est prévu pour dans pas longtemps?
Ça va pas être tout de suite, hein. Je suis dans une phase, la phase un petit peu incertaine de création où les choses viennent quand elles viennent, malheureusement.
D'accord. Ça fait pas peur. On attend ça très tranquillement, très sereinement. On se dit que de toute façon, on a des choses, de toute façon, des choses à produire, des choses à faire entendre. Bon, quoi
oui,
qu'il arrive.
J'ai déjà été confronté à ces phases-là, donc je commence à les connaître et puis j'ai la chance de prendre le temps. Je suis aussi un jeune papa qui prend soin de sa petite fille.
Alors, voilà. Effectivement, ça peut aider à entendre, à faire patienter. Hein,
exactement.
J'imagine.
Exactement.
Merci en tous les cas, Renan, d'avoir été des nôtres.
Avec plaisir, je suis ravi d'avoir partagé ce moment avec Vincent. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de le faire, donc voilà.
Je suis très heureux. Et puis n'hésitez surtout pas à nous faire connaître. Moi, j'aimerais bien entendre vos premières productions. Je sais que vous aviez produit un disque pour une association. Ça, j'ai jamais entendu. J'ai vu ça sur Internet.
Ah pareil. Oui, c'est il y a très longtemps, ça.
Oui, il y a très longtemps.
Ma première expérience de musique un peu professionnelle.
J'aimerais bien entendre
pour une
ça.
Association. Ouais.
Bon, et j'espère qu'un jour j'aurai l'opportunité d'entendre ça.
Je vous l'amènerai.
Vincent Marron. Qu'est-ce qu'on dit pour finir? Évidemment, on donne les coordonnées, évidemment. On dit que il y a toujours possibilité de parents, par exemple, qui s'inquiètent, qui ne savent pas exactement si leur enfant est touché par une dyspraxie. Dans ces cas-là, c'est bien qu'ils viennent vers vous également, l'association.
Oui, tout à fait. Comme ça, localement, nous pourrons donner aux familles des contacts de professionnels, donner des conseils aussi pour monter un dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées s'il y a besoin, et puis aussi sentir pour les familles qu'elles sont pas toutes seules, et ça c'est très important, et pour les enfants aussi. Souvent les enfants, quand ils rencontrent d'autres enfants dyspraxiques, disent ah bah chouette, alors je suis pas tout seul.
Ah,
donc
super,
ça c'est,
oui.
C'est vraiment important, hein.
Ouais, ça c'est important, effectivement. On va conclure en donnant les différentes coordonnées qui mènent justement à Dyspraxie France 10.
Voilà, donc nous avons un site internet qui s'appelle www.dyspraxie.fr, leur dyspraxie au pluriel avec un S à la fin. Un numéro de téléphone national, comme ça on pourra vous aiguiller, c'est le 01 84 16 08 09. Voilà, donc avec tout ça, les familles pourront être orientées facilement.
Vincent Marron, Renan Luce, je vous remercie infiniment d'avoir été des nôtres pour nous présenter Dyspraxie France 10. Et puis je remercie également les demoiselles qui ont participé à l'élaboration de cette émission et qui nous viennent des Mureaux, qui nous viennent du lycée Jacques Vaucanson. Merci à vous tous, merci à vous
toutes.
Et puis à une prochaine fois sur l'antenne de Vivre FM. Au revoir.